c'est quoi la French Touch?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
C'est ça coule bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne quoi.
Épisode 11, le renouveau Headbanger.
L'aventure a commencé donc en 2003, un accident, une étincelle, Mr. Flash a déboulé dans mon bureau pour que je devienne son manager.
Pedro Winter, fondateur du label Headbanger.
Parce qu'à l'époque, moi, je suis toujours manager Daft Punk, mais je manageais quelques groupes, Daft Punk, Cassius, Cosmo Vitelli, DJ Mehdi, pas mal de groupes de l'électro française. Et donc, des gens venaient me voir en me demandant de faire partie de la famille. À ce moment-là, moi, je commençais déjà un peu à me lasser du rôle de manager. Donc, j'ai dit à Flash, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'être ton manager. Par contre, ta musique, je trouve ça génial. On va trouver une façon de travailler ensemble. Et donc, j'ai monté le label sans réel plan ou quoi que ce soit, juste une envie de sortir sa musique. Et donc, j'ai sorti ce disque Radar Rider en 2003, qui est un morceau de hip-hop instrumental, donc complètement hors format par rapport au club et à ce qui se faisait à cette époque-là. Et je suis bien content d'avoir sorti ce disque.
Moi, je m'appelle Xavier Doronet. Je suis la moitié de Justice, la moitié réveillée parce que l'autre moitié dort encore, parce qu'on a changé d'heure ce week-end. Ben, moi, j'ai 23 ans et j'habite à Paris, tout comme mon partenaire. Ben, on vit ensemble, en fait, dans le nord de Paris. On s'est rencontrés, en fait, par des amis d'amis qui avaient un micro-label, en fait, qui s'appelait Musclor Records. Et à l'époque, ils faisaient une compile, en fait, qui s'appelait It's Up To You. Ils préparaient une espèce de pastiche de l'Eurovision. Et on s'est rencontrés en fait par ces copains-là qui nous ont demandé de faire un morceau, en fait, qui demandaient à tous leurs amis de faire un morceau pour cette compilation. C'est là qu'on a décidé de faire un morceau ensemble alors qu'on se connaissait à peine, je crois que je l'avais vu une fois avant en fait. Et on a fait ce morceau pour cette compile qui s'est vendu à 74 exemplaires. Grosse performance.
Musclor Vision était né.
Voilà, nous on avait fait un espèce de morceau post-Buggles horrible. Mais grâce à Dieu, il y a que 60 personnes qui connaissent ce morceau post-Buggles de Justice.
Je les ai pas regardés et écouté leur musique en disant « Ouh là là, il y a un potentiel, je vais les laisser mûrir 2-3 ans et ensuite... Juste, ça a été aussi encore un accident, puisque je me suis incrusté à un dîner et je les ai rencontrés lors de ce dîner. Donc, si je n'avais pas réussi mon incruste à cette fameuse raclette, ben, je n'aurais jamais rencontré Justice. Donc, je les ai rencontrés, ils m'ont fait écouter 2-3 morceaux. Et c'est vrai, notamment ce remix de Simian. Et après, il ne faut pas être non plus un demi-dieu pour se rendre compte que ce morceau est un tube. À force de travailler avec eux et de passer du temps avec eux, je me suis rendu compte que c'était des petits génies. Mais ça, tu le découvres au fur et à mesure.
Ouais, c'est ça, on avait fait ce concours qui est organisé par Radio Campus. Et effectivement, dans notre malheur, puisqu'on a perdu, on a rencontré notre manager et ami et boss de label Pedro Winter, qui a sorti ce morceau en fait. Il cherchait une phase B en fait pour un de ses maxis, il lançait son nouveau label en fait. Nous, je crois qu'on a sorti le deuxième disque de son label et par chance, ouais, le truc a été un peu joué.
Yeah, it was big everywhere. It's, you know,
ça a été un tube partout. We Are Your Friends est devenu un hymne, une référence. C'était étrange.
James Ford, du groupe Simian, auteur de Never Be Alone.
Well, at the time, I have a weird relationship with it.
Moi, à l'époque, je n'aimais pas trop ce remix.
It was part of a remix competition, and I.
On avait organisé un concours pour remixer le titre, et parmi les 10 propositions, on n'a pas choisi la version de Justice. Mais entre-temps, Justice sont devenus célèbres. Le succès du remix nous a permis, avec Jazz, d'être DJ un peu partout. Tout le monde attendait que l'on joue le remix, et on le jouait jamais. Donc, j'ai toujours eu une relation amour-haine avec ce morceau. Avec le recul aujourd'hui, j'adore ce titre et je lui dois beaucoup. C'est une chose importante dans ma vie. Mais oui, c'est une drôle d'histoire.
On a découvert l'électro super tard. Et même si la musique qu'on fait maintenant sonne beaucoup plus électro que pop ou quoi que ce soit.
Xavier Doronet.
On pense toujours à un format pop quand on fait ces morceaux-là, c'est-à-dire immédiats et qui sont assez courts. Et, on n'a pas la science du dance floor et des morceaux électroniques de 10 minutes qui a monté interminable. Et on aimerait bien, mais on a toujours une vision assez pop de la musique, même quand elle a l'air un peu difficile d'accès.
Pour Justice, ce qui s'est passé, c'est, je pense que c'est vraiment, pour le coup, la théorie du être au bon moment, au bon endroit. 2005-2006, deux petits Parisiens arrivent avec une musique funky, énervée, à la croisée de deux mondes qui se croisent jamais, le heavy metal et le disco. Voilà, une énergie assez incroyable, et puis d'un coup, on se retrouve en club avec des rappeurs, des mecs qui aiment Franz Ferdinand et Vampire Weekend, donc tous les indie kids, et en même temps, les gens de l'électro qu'on en marre un peu du tunnel techno pas rigolo, ils ont envie un peu de fun, envie d'embrasser des filles, et je crois qu'on s'est retrouvés à ce croisement-là, et donc ça a fédéré comme ça une espèce de faune qui se croisait pas encore une fois, donc ça a servi de trait d'union, je pense culturel, social, et c'est ça qui a fait mouche à mon avis. Encore une fois, on s'inscrit dans le sillon qu'a tracé LCD Sound System, Soul Wax ou Errol Alkan, des gens comme ça. Qui ont pris l'indie rock et rajouté un peu de disco qui était un peu mal vu, rajouté un peu de rap, de groove, de choses comme ça, dansantes. Et effectivement, ça crée là aussi un cocktail explosif.
Je crois qu'on a fait notre deuxième maxi 2 ans après avoir fait le premier, super longtemps après.
Xavier Doronet.
En fait, on l'a fait assez rapidement parce que Pedro, donc le boss de notre label, voyait bien que s'il ne nous posait pas de deadline, en fait, on ne le ferait jamais. Parce qu'on est super lent et le truc avec l'électro, c'est que tant que personne te dit que c'est fini, en fait, les morceaux sont jamais finis. Et lui nous a pris un rendez-vous mastering surprise. Et un jour, il nous a dit, voilà les gars, dans un mois, il y a le mastering de votre deuxième maxi. Donc vous avez un mois pour le faire et faites-le. Et je me souviens que le morceau titre du maxi, donc Water of Nazareth, n'était pas sur la première version du maxi qu'on avait faite un mois après. C'était un autre morceau, ouais. Et en fait, ça devait être la face B1, donc Let There Be Light, qui devait y être dans une autre version. Et en fait, le mec qui faisait le mastering était à une gastro le jour du mastering à Londres. Et donc, ça a été redécalé au mardi d'après, ça devait être un vendredi. Donc, on a eu 5 jours de répit. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai aidé DJ Mehdi à faire le tracklisting de son album à la maison, et je lui ai fait écouter un bout de Waters of Nazareth, et il m'a dit mais quoi, c'est pas sur le maxi, ça c'est le meilleur morceau de Justice que j'ai jamais entendu. Donc là, coup de panique, donc je l'ai renvoyé chez lui et je l'ai arrêté de l'aider sur son track listening, et on a fait ce morceau là donc pendant le week-end juste avant le mastering, et finalement c'est la façade du maxi.
Philippe Zdar et Hubert Boumbass sont en studio pour produire le deuxième ou troisième album de MC Solar.
Pedro Winter.
Et Philippe et Hubert ont la bonne idée, alors qu'ils ont les commandes et les mains libres pour faire tout l'album, de se dire, tiens, et si on ouvrait la porte à d'autres producteurs? On a entendu parler de ce jeune producteur de rap, plutôt producteur de rap un peu hardcore, puisqu'il est affilié à la mafia Quinfri, c'est DJ Mehdi. Mais on sent qu'il a quelque chose de différent. Et de fil en aiguille, la date à New York avec Daft Punk pour la soirée respect est annoncée. Et Philippe et Hubert propose à Mehdi qui a vécu en studio, ah bah tiens, demain on part à New York, on doit faire un aller-retour pour aller mixer avec nos potes de Daft Punk, est-ce que tu veux venir avec nous? Et Mehdi, toujours curieux et prêt pour l'aventure, dit bah à fond, donc il lui book un billet, c'est Philippe et Hubert qui invitent Mehdi à New York. Moi j'étais déjà à New York avec Daft Punk à l'époque, et on se retrouve tous au resto avant la soirée. Alors il y a le clan Daft Punk, le clan Cassius, et moi je suis un peu le trait d'union comme d'habitude, et je me retrouve assis à côté de Mehdi, donc on fait connaissance. Effectivement, moi je ne l'avais jamais rencontré, lui non plus nous ne l'avait jamais rencontré. On savait brièvement qui il était, lui savait très bien qui nous étions. Et on rentre à Paris, et je pense que deux jours après, Mehdi frappe au bureau d'Aftrax, rue du Rantin dans le 18e. Et il vient me voir, hey Pedro, tiens, et il m'amène des maxis. Tiens, j'ai lancé un label, ça s'appelle Espionnage. Et il me file des maxis, alors de rap, de Rossé, de Roff. Ultra bien produit. Alors moi, effectivement, je suis plus fasciné par la face B, à savoir les versions instrumentales. Et il me lâche la compilation Espion le EP en me disant, ah, tiens, je suis en train aussi de bosser sur ce disque-là. Et puis d'un coup, j'écoute ce disque et j'entends tout sauf du rap français. J'entends, effectivement, il y a des rappeurs qui posent sur les morceaux, mais tout de suite, voilà, j'entends un morceau avec un pied tous les temps, et je dis, mais ah ouais, ok, tu fais ça, et en fait, c'est là où tout de suite, je comprends qu'il est en train de mettre un pied chez nous. Quelques semaines ou quelques mois après, Mehdi encore me demande d'être son manager, et après Daft Punk, c'est effectivement DJ Mehdi, le deuxième artiste que je manage dans ma jeune carrière de manager. 12 grammes dans le crâne, pour écrire, sinon c'est comme New York sans drame, pour tout dire. Au Vitry sans brago, mon gros, faut se maintenir. Tu sais à quoi s'en tenir en banlieue.
C'est DJ Mehdi qui faisait les connexions du côté de l'électro, parce que lui, il avait des envies d'électro. Il faisait plein de beats comme ça chez lui.
Rimka, 213.
Il a rencontré Headbanger, les Daft Punk, Cassius, Kavinsky aujourd'hui, qui était un jeune artiste qui aujourd'hui a explosé, etc. Et c'est lui qui a fait cette passerelle entre 113 et l'électro. Et puis, le titre qu'on a fait avec Daft Punk, c'est Thomas Bangalter, qui est passé par hasard au studio, quoi. Et le mec est venu, et puis il a dit, attendez, il est parti chercher son vocodeur, il est revenu, et puis il a commencé à composer, quoi. Et donc ça, c'est les histoires de vie aussi, c'est ça qui est beau. Et qui marque aussi notre histoire.
Mehdi, il avait vraiment ce truc de savoir ce qui était la bonne cartouche.
Sébastien.
J'ai un exemple pour moi. Pedro et Mehdi ont insisté sur un morceau que j'avais fait qui s'appelait Motor, alors que je voulais absolument pas sortir. Je disais, mais c'est beaucoup trop con. C'est un bruit de... Enfin, c'est littéralement une sorte de bruit de moteur sur un truc. Les deux me disent, non mais Motor, il faut le sortir, etc. Et effectivement, c'est un des morceaux qui est resté le plus de tous les trucs que j'ai fait, alors que moi, à titre personnel, je l'aurais probablement jamais sorti, quoi. Et Mehdi, c'était vraiment le centre de la diplomatie, du type qui réunissait tout le monde. Moi, à l'époque, Pedro Winter, je sais à peine qui c'est. Hein. Le seul truc que je sais, c'est que c'est le manager des Daft, et que c'est genre, waouh. Donc en fait, j'ai juste littéralement tapé à la porte du bureau en n'y croyant pas vraiment. Et Pedro m'ouvre. Et à mon grand étonnement, Pedro me dit « Bah ouais, vas-y ». Moi, je suis en train de... J'ouvre le label, fais écouter. Et je lui fais écouter je sais pas combien de petites maquettes. Et il me dit « Alors ça, ça, ça et ça, tu les termines. Et la semaine prochaine, je te signe. » sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends. En plus, moi, il y a un truc, c'est que j'étais quand même assistant comptable à la Défense, enfin, un truc assez morne. J'avais pas la sensation que les choses pouvaient durer. Ok, bon, bah vas-y, je termine le morceau, c'est assez ouf, mais c'est genre. Ouais. Donc je l'ai terminé, et il le fait. Il me signe, on presse les trucs et tout. Pedro, il me dit que t'as un nom d'artiste. J'avais même. Je lui dis non. Et il me dit, tu t'as un truc et tout. J'ai dit. Je sais pas, je m'appelle Sébastien. Il me dit, bon, bah vas-y, on prend ça.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 11, le renouveau Headbanger.
L'héritage Daft Punk, c'est quelque chose qui me pèse absolument pas. C'est quelque chose, au contraire, que je porte plus comme une médaille que comme une casserole.
Pedro Winter, fondateur du label Headbanger.
Maintenant, j'essaye aussi d'éviter et de préserver un peu Justice, parce que là, on parle vraiment de Justice quand on parle des enfants de Daft Punk. Justice a besoin aussi de vivre en tant que groupe et en tant qu'entité seule. Donc voilà, donc l'héritage, évidemment, il est là, mais il est valable pour Justice et aussi pour tous les jeunes qui font de la musique électronique en France. Maintenant, c'est bien d'essayer de se détacher un peu de ça, d'avancer un peu tout seul. Tous les artistes de musique électronique française se cachaient derrière une bouteille d'eau, derrière des masques, derrière des concepts, derrière des marionnettes jaunes. Tout le monde cherchait à se cacher. Et ben moi, au contraire, finalement, les artistes se mettent en avant. Nous, on n'hésite pas à se mettre sur nos propres pochettes, à jouer de nos personnes.
L'anonymat complet nous était interdit à cause du précédent Daft, qui ont d'ailleurs fait un choix qui est génial.
Xavier Deronet, moitié de Justice.
Qui est la meilleure façon de se représenter. Et en fait, dès le début, on était déjà tellement comparé au Daft que c'était pour nous une impossibilité, en tout cas, de faire ça. Et puis, c'était pas vraiment notre culture non plus. Nous, on a grandi en écoutant Led Zeppelin ou des trucs comme ça, ou qui est l'inverse de ça, qui est vraiment la surexposition, qui est le truc de rockstar par excellence. Donc, au moment de se poser la question de se représenter, on s'est dit, allons dans l'exact opposé de ça et présentons-nous pour l'instant pour ce qu'on est, c'est-à-dire des mecs de 20 ans un peu cool, entre guillemets. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire.
C'est se faire de la même manière qu'on a la croix sur les pochettes.
Gaspard Auger, moitié de Justice.
Qu'elle apparaît aussi subrepticement pendant les concerts. C'est devenu le frontman du groupe, la croix, et ça nous va très bien. Ça doit vraiment être une illustration graphique de la musique.
On savait pas si on allait faire de la musique pendant 1 an ou 10 ans ou 20 ans, mais par contre on savait que si par malheur on durait plus de 10 ans, il vaut mieux préparer un peu le terrain en se disant voilà, on a ce symbole qui représente le groupe plus que nous et qui vieillira probablement plus élégamment que nous.
Monde qu'on part en permanence, Justice, Daft Punk, c'est une évidence, hein, c'était pas une discussion. Après, moi, je suis évidemment convaincu que ce sont bien deux groupes différents, même si au tout début, la rumeur grondait, est-ce qu'on avait été assez machiavélique de faire en sorte que Justice était drivé par Daft Punk, ça aurait été marrant. D'ailleurs, à tel point que Xavier Gaspard eux-mêmes faisaient des blagues en interview en disant « Oui, oui, bien sûr, nous, on n'est que des marionnettes. Tout le disque est produit par Daft Punk. » L'héritage de Daft Punk dans tout ce qu'on fait avec Headbanger, c'est à la fois un cadeau, à la fois une responsabilité, un fardeau, hein, tout ce que tu veux, mais c'est évidemment un bonheur et un honneur, quoi.
T'avais quand même un petit peu l'impression que c'est comme plein de gens qui avaient raté leur adolescence et qui avaient décidé de la faire en même temps, qui avaient trouvé un créneau pour la vivre vraiment.
Sébastien.
Moi, je me suis mis à me rapprocher de Kavinsky, donc de Oiseau. À un moment, Somi, je me rappelle, pour un peu créer du lien, organise une rencontre au bistrot en face du Rex pour qu'on se voit un peu tous, parce que la partie, l'autre partie de Banger des Justices, tout ça, on se connaît mal. Et là, ça commence à prendre, on commence à se connaître, on se fait véritablement tous écouter les trucs, et on se voit beaucoup, en fait, avec Xavier Doronet et Gaspard Roger. Là, on est l'équivalent musicalement de ce que sont des ados dans un garage, avec leur guitare, sauf que c'est la même avec des ordis, quoi. Donc on teste des trucs, il y a des échanges de procédés, on travaille plus ou moins de la même manière. En fait, Kavinsky a demandé à Guyman si ça l'intéressait de faire un track ensemble, etc. Et il a dit oui. On est parti en studio, ils ont fait ce track, donc qui est Night Call. Ils m'ont filé toutes les pistes à la fin, et moi je l'ai mixé, arrangé, je l'ai arrangé en gros, quoi. On était en pleine période, je dirais, de maximalisme, que des trucs up-tempo et tout. Et lui arrive avec une espèce de, quasiment un slow, une chanson.
Night Call, qu'on a sorti, je crois, un ou deux ans avant Drive.
Kavinsky.
Qui a été un four, compte tenu de toutes les. Sur le papier, fait avec la moitié de Daft Punk. Moi qui n'étais pas vraiment connu à l'époque, enfin en tout cas à côté de ce mec-là. On attend tous ce morceau, on se dit qu'on va sortir un truc de ouf. Puis finalement, on a vendu 500 disques. Donc bon, on rentre tous chez soi, la queue entre les jambes. On se dit, bon, bah écoute, ayons du cœur pour le prochain.
Le morceau reste un peu comme ça, sous les radars, pendant au moins deux ans, je crois. On reçoit une demande de synchro de Nicolas Refn. Mais Nicolas Refn, lui-même, à l'époque, est un mec qui fait du cinéma indé danois avec des Serbes qui se battent. Tu vois, j'ai envie de te dire un truc. Pareil, c'était un peu abstrait pour nous. Il fait une demande de synchro, on dit ouais, ok. Le film sort et ça explose. Ça explose vraiment. On se rend compte, mais tous, que le type a pris l'intégralité du morceau pour l'ouverture et que parallèlement l'univers de Kavinsky est complètement mêlé à ce qu'est le film.
What do you do?
I drive. Like for movies.
Oh.
Aller au cinéma pour voir la première, parce que je savais pas du tout où était le morceau, en fait. J'ai crié, j'ai hurlé de joie comme un gamin. J'étais au premier, en fait, il restait plus de place. J'étais avec Skrillex ce jour-là, que je rencontrais. Il me fait, je chill à Paris, je m'emmerde, est-ce que tu peux m'emmener quelque part? J'ai dit, bah je vais aller à une promo, là, tu veux venir avec moi? On a bu deux, trois coups, on est allé là-bas. On était un peu chaud. Et puis du coup, on s'est assis au premier rang, là où il restait de la place. J'ai pensé Skrillex sur les genoux. Je lui ai dit, oh putain. Et donc voilà, bah, ça a été un des meilleurs moments de ma vie, quoi.
Et maison de disques et autres appellent et disent, genre, faut sortir un disque, quoi. Et on n'était pas du tout préparé, mais pas du tout. On était vraiment, comme je te l'ai dit, avant comme après le film, en terrasse. Bah là, d'un coup, moi, je me mets au charbon. J'habitais une espèce de 20 mètres carrés. Kavinsky m'apporte les maquettes. La disposition de mon studio, c'était ma pièce. Donc, il y avait le lit, l'ordi et le frigo derrière. J'avais Kavinsky qui chopait toutes les bières au frigo. Du coup, je disais de fermer la porte. Ça devenait trop froid pour terminer les trucs. Et donc, on avance, on rend le disque. Et là, le truc démarre et s'enclenche. Mais pareil, enfin moi en tout cas, j'ai aucune conscience de l'ampleur du truc.
je trouve que la French Touch 2.0,
Romain Tranchard du groupe Mojo,
est super intéressante. Elle n'est pas moins virtuose techniquement, etc. Ensuite, je trouve qu'elle commence déjà à embarquer un peu plus de ce que l'époque peut avoir d'assez dur. Et ça se retrouve notamment dans la musique de Justice, qui est géniale. C'est des super musiciens. Autour de 2007-2008, effectivement, on est plus du tout dans la même tonalité festive et très colorée que ce que ça a été fin des années 90, début 2000. Je pense qu'il y a eu ensuite une French Touch 3.0, 4.0, etc. On est en 2025 aujourd'hui. Et finalement, une chose est certaine, c'est que je me suis pas du tout rendu compte du fait que ça allait devenir aussi culte.
Ce qui est assez drôle, en tout cas, je vois maintenant, il y a déjà des enfants de justice.
Pedro Winter.
Cette rapidité et cette histoire de timing qui s'accélère, elle est juste due au fait de notre époque, quoi. On est en 2007 et tout va vite. Le matin, un petit kids chez lui sur son Cubase, il peut faire un petit morceau, le mettre sur MySpace à midi et à 14h me l'envoyer, moi, sur un comment en me disant « Ouais, Pedro, est-ce que tu veux me signer ?» Et le soir, je peux décider ou pas de le signer. Ça, c'était pas possible il y a 5 ans, c'était pas possible d'aller aussi vite. Et là, c'est vrai que tout s'accélère. Donc les enfants des enfants des enfants, bah ouais, là, ça va aller très vite.
Il s'est passé 8 ans entre nos deux albums.
Xavier Doronet, moitié de Justice.
8 ans, parfois il y a des groupes qui se séparent et qui se reforment. Et peut-être que les gens ont l'impression d'assister à un réunion tour de Justice ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on arrive à un moment aussi intéressant de nos vies en tant que Justice. Notre premier morceau date d'il y a 21 ans et qu'on arrive peut-être à un moment où les audiences se croisent un peu et il y a une partie des gens qui étaient là au début et peut-être une partie de gens qui sont des jeunes adultes ou des ados même ou des enfants qui découvrent Justice de la même manière que nous on découvrait des groupes de New Wave en 2003.
À suivre, épisode 12, les Daft Punk sur le toit du monde.
Obama, qui est président à l'époque, il sait forcément qui sont les Daft Punk. Je pense même le pape sait qui sont les Daft Punk. Stronger. Le monde entier sait qui sont les Daft Punk. Power.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.